Chapitre 8e, Île-de-France. Incendie, coup de vent, détail. Les vents nord-est qui nous prirent en quittant la baie de la Table nous accompagnèrent au loin, et dans peu d'heures, nous nous trouvâmes sur le terrible banc des aiguilles, témoin de tant de naufrages. La houle est monstrueuse, et dès que vous avez couru à l'est, vous vous apercevez sans trop d'expérience que vous entrez dans un nouvel océan, tant la lame devient large et majestueuse. Mais comme je n'ai pas entendu dire par un seul marin qu'on ait jamais doublé le cap toute voile dehors, nous voilà nous aussi recevant par le travers du canal Mozambique la queue d'un ouragan qui nous force de courir à sec de voile et nous chasse vers de hautes latitudes. La traversée fut courte cependant. Après une vingtaine de jours, nous vîmes pointer à l'horizon un cône rapide, et bientôt après autour de lui, comme d'humbles tributaires, furent groupées d'autres cimes à l'aspect bizarre et varié. C'était l'île de France. Sitôt que la terre se dessina régulière et tranchée, nous braquâmes nos longues vues vers les points les plus élevés pour y chercher les souvenirs bien doux de nos premières lectures. Nous avions hâte de parcourir les sites poétiques illustrés par l'élégante plume de Bernardin de Saint-Pierre. Hélas, chacun de nous resta bientôt triste et morne sur le pont. Le nom de l'île et le pavillon britannique se trouvent là, pour ainsi dire, côte à côte, et nous nous humiliâmes devant la domination anglaise qui pèse sur toutes les parties du globe. Les paysages sont plus variés, plus magiques peut-être, mais aussi moins grandioses qu'au Cap de Bonne-Espérance. L'île entière a été vomie par l'océan dans un jour de colère, mais elle s'est échappée des eaux avec une parure jeune et fraîche qu'on ne trouve nulle part en Afrique, dont pourtant elle est un débris, ainsi que Bourbon, les Seychelles et Madagascar. Nous avancions toujours, aidés par une brise soutenue, et déjà nous pouvions dessiner les sites heureux si suavement décrits par Bernardin. Le morne des signaux, les plaies embaumées de Minicie et de la poudre d'or, dans un ciel vaporeux, le Peterborough, montagne si curieuse que nul autre monde ne peut lui être comparé, si ce n'est peut-être la Malaïta, la plus élevée et la plus difficile à gravir de toutes les cimes neigeuses des Pyrénées. Figurez-vous un cône régulier pelé, d'une pente extrêmement rapide, au sommet duquel semble tournoyer sur une base exiguë une sorte de toupie de lave. On croirait qu'à chaque ouragan, la toupie arrachée de sa base de granit va tomber dans l'abîme et écraser dans son passage les belles et riantes plantations qu'elle domine. Un audacieux matelot a pourtant arboré le drapeau tricolore sous la tête de Peterborough. Mais il faut, pour y croire, avoir été témoin de ces prodiges de persévérance et d'audace. Il n'y avait pas un an encore que nous avions quitté Toulon, et je ne saurais dire l'impression de bonheur dont je fus frappé lorsqu'en passant près du navire stationnaire, nous entendîmes des paroles françaises arriver jusqu'à nous. Et c'est en effet un assez étrange spectacle que celui d'un pays où tout est français, les mœurs, le costume, les sentiments, quand surtout la Grande-Bretagne étale sur tous les forts son léopard dominateur. Par le traité de 1814, l'île de France devint anglaise et s'appela Mauritius, tandis que Bourbon, sa voisine, dont les Anglais s'étaient emparés quelque temps auparavant, nous fut rendu par eux. Dans tous les échanges, le léopard sait se faire la part du lion. On débarque entre le trou fanfaron et la tour des blagueurs. On dirait une mauvaise plaisanterie. Ce dernier nom a été donné à une vieille bâtisse élevée sur une langue de terre qui s'avance dans le port, parce que les jeunes désœuvrés de l'île, alors qu'un navire allait entrer, s'y donnaient rendez-vous et s'y livraient à de folles causeries sur les qualités du vaisseau voyageur. J'ignore l'étymologie du bassin fermé appelé trou fanfaron et servant aujourd'hui au radoub et au carénage. En face du débarcadère s'élève le palais du gouvernement, bâtisse de bois noir, à trois corps de logis, resserrée, étroite, privée d'air et sans élégance. C'est une véritable cage à poules. Je vous dirai plus tard ce que c'est que la ville nommée Port-Louis. Mais je débarque, et selon mon habitude, je m'arme de mes crayons, et je me prépare à parcourir dans la campagne les lieux dont les noms sont dans ma mémoire. Je ne prends jamais de guide, car le vrai plaisir de l'explorateur est dans ses courses sans but, au hasard, au travers des ravins, des sources, des torrents, ne demandant secours à personne, où l'on suit le cours d'un ruisseau qui passe, faisant descendre à coups de pierre de l'arbre qu'elles embellissent les jambes rosa aigrelettes, rafraîchissantes, les bananes si moelleuses, suspendues en grappes sous les énormes parasols qui les abritent sans les étouffer, et l'ananas suave, et la goyave, et tous ces fruits délicieux des colonies qu'on aime d'abord que médiocrement, mais dont on ne peut bientôt se lasser. Voilà la vie errante qui me plaît, et que j'ai adopté dès mon départ au profit de mes plaisirs et de mon instruction. Cette fois pourtant, je me vis forcé de renoncer à mes projets d'excursion, et voici comment. À peine étais-je descendu du canot, et eus-je fait quelques pas sur le débarcadère, qu'un colon de fort bonne mine s'approcha de moi d'un air empressé et me salua. Monsieur fait partie, sans doute, de l'état-major de la corvette mouillée sur Rade. Oui, monsieur. Monsieur n'a pas de correspondant, ce pays? Non, monsieur. Ni logement à terre? Non, monsieur. Vous tenez, je le vois, hôtel garni et table d'hôte? Presque. Je ne comprends pas. Je suis négociant, banquier de l'île. Dès qu'un navire français arrive, je viens sur le port et je m'estime heureux, quand on veut bien, sur mon invitation et sans cérémonie, accepter un dîner chez moi. Il y a longtemps, sans doute, que vous ne vous êtes assis à une table. Voulez-vous me faire le plaisir et l'honneur de venir prendre place à la mienne? Cette exquise politesse me flatte, et j'y répondrai mal en refusant. En ce cas, voici un palanquin et des noirs à vos ordres. Si vous le permettez, j'aime mieux aller à pied. À la bonne heure, je vous offre mon bras, que j'accepte. Nous voilà donc en route, et je remarquai en traversant les rues et les bazars que, marchant à leur comptoir, cavaliers et piétons saluaient mon nouvel arrivant avec un empressement et un respect qui me donnèrent de lui une haute opinion. « Votre ville me semble un peu triste, monsieur. Vous y arrivez dans un mauvais moment, mais ne vous hâtez pas trop de la juger, monsieur Arago. Vous savez mon nom. Un matelot l'a prononcé sur la cale, et ce nom est venu plusieurs fois jusqu'à nous. Le vôtre, je vous prie. Il est né dans l'île, et il y mourra à coup sûr. Je m'appelle Tommy Pitot. » Nous arrivâmes. « Soyez le bienvenu, » me dit en me tendant la main un vieillard à figure pleine de bienveillance. « Nous allons nous mettre à table. » Mais Tommy aurait dû ne pas vous amener seul. J'ai été pressé de vous présenter ma conquête, c'est monsieur Arago. » Dans un salon vaste, frais, élégant, orné de beaux tableaux à l'huile, au milieu d'une famille aimable de peintres, de littérateurs, de poètes, s'échangeaient des saillies spirituelles avec une prodigalité ravissante, et puis de jeunes et fraîches dames et demoiselles, l'une au piano, l'autre à la harpe, une troisième chantait, et tout cela sans afféterie, sans ambition, avec une gaieté, un laisser-aller, une sorte de bonhomie à effacer toute supériorité personnelle. Pour le coup, j'oubliais mes courses aventureuses, les bois, les rochers, les cascades, les précipices sur tort, et je me laissais doucement aller au charme d'une soirée délicieuse qui se prolongea bien avant dans la nuit. « Maintenant que la fatigue et le sommeil peuvent vous arriver, me dit M. Tommy, allez vous reposer. Tenez, voici un pavillon isolé tranquille. Vous avez là, dans une armoire, un rechange du matin et du soir, un lit moelleux, un moustiquaire sur lequel vous ne pourriez dormir. Quand vous y viendrez, vous me rendrez service. Quand vous n'y viendrez pas, vous me fâcherez. Nous déjeunons à 10 heures, nous dînons à 6. Le soir, il y a thé et concert. On vous attendra tous les jours. Que de bonté à la fois. Vous êtes absurde, c'est de l'égoïsme. Nous aimons tant à parler de la France. Puis, voulez-vous être servi par des hommes ou par des femmes? Cela m'est égal. Je vois que cela ne vous plaît pas. Je vais donner des ordres. Il est tard. Bonne nuit. Demain, je vous présenterai à mes meilleurs amis. Et vous verrez qu'il n'y a pas, comme on le dit, 3 500 lieues de Paris à l'île de France. Plus je voyage, plus les différences morales qui distinguent les hommes me semblent tranchées. Les nuances physiques échappent parfois à l'observateur. Mais les mœurs et les habitudes ne peuvent laisser aucun doute sur l'influence que le sol et le climat exercent sur l'espèce humaine. Il y a, si j'ose parler ainsi, une grande sympathie entre le moral du créole et la richesse de cette végétation parfumée qui le presse et l'endort. Le créole est fier jusqu'à l'insolence, généreux jusqu'à la profusion, brave jusqu'à la témérité. Sa passion dominante, c'est l'indépendance, qu'il rêve à un âge où il peut à peine en comprendre le bonheur et les dangers. Cerclé, pour ainsi dire, dans les limites étroites de son île, il semble étouffé sous la brise qui le rafraîchit, et cette mer immense, qui le ceint de tous côtés, lui paraît une insupportable barrière contre laquelle il est toujours prêt à se mutiner. Toutefois, ne lui parlez pas avec dédain de ces belles plantations de café, de ces champs si gais de canne à sucre, de cette ardente végétation tropicale dont il veut fuir les ombrages, car alors il vous dira que son amour à lui, c'est son île adorée, que son culte, ses dieux, ses joies, ce sont ses cases sous ses allées de lataniers, ses esclaves au travail, ses noirs vigoureux et ruisselants, le berçant avec des chants monotones sur la natte soyeuse de son palanquin. Un moment après, si vous le rappelez les bienfaits, les tourbillons de l'Europe savante et civilisée, il soupire, dédaigne ce qui l'entoure, parle de son départ prochain, mais se hâte d'ajouter que le cœur n'est pour rien dans ses projets d'émigration et que s'il s'éloigne pour quelque temps, c'est afin de mieux apprécier la terre féconde qu'il appelle seule sa patrie. En général, la charpente physique du créole est grêle, mince. Elle accuse de la souffrance et quelque chose de mou et d'énervé. On dirait des hommes qui se laissent aller doucement à vivre et qui tomberont au premier choc. Les ouragans de leur pays les tiennent en haine des fortes émotions, et même dans leurs passions les plus fougueuses, il y a une certaine couleur d'infortune et de fatalité qui leur a valu bien des triomphes. Le créole est peu marcheur. La moindre petite course l'épouvante et sans le palanquin, il ne sortirait jamais de ses frais appartements. Il aime la musique, il l'aime par-dessus tous les autres plaisirs, mais il l'aime douce, triste et sentimentale. Il pense que l'harmonie est faite pour amortir la douleur. Il s'irrite contre les refrains joyeux, et s'il ordonne aux esclaves qui le portent de chanter, c'est qu'il s'endort doucement à la monotonie des airs malgaches ou mozambiques. Les créoles de l'Île-de-France et ceux de Bourbon sont les types les plus curieux à étudier, non pas tant par les vives couleurs qui en font des nations hors ligne, que par les imperceptibles nuances qui les distinguent. À la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Domingue, on est trop rapproché de la métropole. La France et l'Europe se reflètent pour ainsi dire dans leur savane. Mais l'Île-de-France se présente à l'œil du physiologiste avec son caractère primitif, et je ne fais, moi, historien léger et frivole, qu'indiquer la route qu'auront à suivre de plus habiles explorateurs. Une chose m'a toujours et péniblement frappé dans les colonies, c'est la profonde impassibilité du créole à ordonner une punition au noir qu'il a jugé coupable. Il le condamne à recevoir 25 ou 30 coups de rotin, et cela avec le même flegme que s'il lui disait « Je suis content de toi ». Puis, lorsqu'amarré à une grille, le noir crie sous la latte, le créole n'entend pas la douleur et fume tranquillement son cigare. À cela, il me répond que ce que j'appelle cruauté, barbarie, c'est de l'humanité, de l'indulgence. « Chez vous, me disait un jour M. Pitot, dont le nom m'est si doux à écrire, que feriez-vous à un domestique qui briserait une serrure et bolerait du linge ou de l'argent? Vous l'enverriez en prison. Puis, le fait avéré, un jury le condamnerait à 6 ans de réclusion. Et c'est, je crois, pour un pareil délit, le minimum de votre code. Ici, un noir brise un meuble et vole. Atroce dans nos vengeances, nous le recommandons au gardien de nos propriétés qui le conduit au bazar public, pour l'exemple, ou dans une cour isolée lorsqu'il n'y a pas de récidive. On lui applique sur le derrière 40 ou 50 coups de rotin et tout est dit. La punition a duré un quart d'heure au plus. Cependant, vous pouvez la faire durer plus longtemps et ordonner 600 coups au lieu de 50. Point, nous punissons mais nous ne tuons pas. C'est que j'ai vu un pays où l'on tuait les esclaves. L'Atlantique est large et nous sépare du Brésil, et je ne vous dis pas tout, reprit M. Pitot en s'irritant par degrés de l'opinion qu'on a chez nous de la brutalité des colons. Ces hommes, ces noirs qui excitent tant de sympathie, connaissez-vous leurs mœurs, leurs habitudes, les lois de leur pays dont le souvenir les accompagne dans l'esclavage? Non, sans doute, car ces noirs vous cesseriez de les plaindre dès qu'ils ont mis le pied sur notre île. Le noir qui travaille n'est esclave que pour un temps, car ce qu'il fait en plus de la taxe imposée lui est compté en argent. Quand la masse est suffisante, il se rachète et devient libre. Tenez, hier encore, un esclave âgé de 50 ans, c'est-à-dire un vieillard, est venu à moi. « Maître, j'ai des piastres, je viens racheter un esclave. Qui donc, mon fils aîné? Pourquoi ne te rachètes-tu pas toi-même? C'est parce que je suis vieux, que je ne travaillerai pas longtemps, que vous serez alors tenu de me nourrir, et que mon fils libre viendra me soigner si je suis malade. Puis, quand j'aurai gagné d'autres piastres, je rachèterai mon fils cadet et je mourrai entre mes deux enfants. » La tendresse paternelle du vieil esclave fut comprise de M. Pitot, qui, pour le prix d'un seul, lui rendit ses deux enfants. Il n'est pas de colonie au monde où les Noirs soient traités avec plus de douceur et d'humanité. Vous les voyez dans les rues sauter, gambader, fredonner les bizarres refrains de leur pays sans que les maîtres s'en fâchent. Le samedi de chaque semaine est un jour consacré à la joie dans toutes les plantations comme dans tous les ateliers. Il est aisé de comprendre, d'après ce que j'ai dit, que les nègres marrons sont en petite quantité dans l'île, quoique sur plusieurs cimes élevées et difficiles, ils puissent aisément se mettre à l'abri de toute recherche. Mais la bonté et l'indulgence des maîtres sont, sans contredit, les plus sûrs garants de la fidélité des esclaves, qui savent fort bien que les bois et les montagnes ne leur donneraient ni une couche moins dure, ni une eau plus limpide, ni un maïs plus pur que ceux qu'ils reçoivent tous les jours dans leur case. D'après un vieil usage qui avait acquis force de loi, un noir saisi marron recevait 25 coups de rotin, en cas de récidive 50, et pour une troisième escapade, on lui en administrait 100. Jamais une punition n'allait au-delà. Mais si un noir fugitif était arrêté par les soins d'un autre esclave, celui-ci recevait 4 piastres de récompense. Eh bien, qu'arrivait-il ? 2 coquins, s'entendant à merveille, tiraient au sort pour savoir lequel des deux serait le déserteur. Quand le châtiment était reçu, ils partageaient l'argent, et pendant quelques jours, les liqueurs fortes faisaient oublier l'esclavage et les steppes africains ou Mozambique. Lorsque nous arrivâmes à l'île de France, 3 fléaux venaient de la ravager. Un incendie, un coup de vent, un gouverneur. En une seule nuit, 1417 maisons du quartier, le plus beau et le plus riche, devinrent la proie des flammes. Des magasins immenses, de magnifiques collections d'histoire naturelle de tous les pays du globe, la plus belle bibliothèque de l'Inde, 2 grands et vastes hôtels, plusieurs études de notaires, tout fut anéanti en quelques heures. Mais, dussent encore certains journaux anglais donner un démenti à mes véridiques paroles, je dois affirmer qu'au milieu du désordre général, on vit des soldats de la garnison, sous les ordres de leur chef, s'opposer à l'élan généreux de la population, briser les pompes et menacer de leur vengeance les plus ailés des citoyens. La plus sordide cupidité avait ordonné ces odieuses mesures, car toutes les marchandises que dévoraient les flammes étaient de fabrique française. Le désastre fut grand sans doute, mais comme si le ciel n'avait pas assez frappé la colonie, le coup de vent qui lui succéda peu de temps après eut des suites plus funestes encore. Un ouragan. Raconter en Europe les terribles effets d'un ouragan des Antilles, de Saint-Domingue, de l'île de France ou de Bourbon, et vous ne rencontrez que des incrédules. Vous n'osez pourtant dire qu'une partie de la vérité, tant l'autre vous paraît surnaturelle, à vous qui avez été témoin de la catastrophe. À vous qui reculez craintif en présence du chaos qui vous environne après le passage du météore. Si l'on a foi à ces désordres, à ces chocs imprévus de tous les éléments que lorsqu'on en a déjà été la victime, lorsque la reproduction du même phénomène est venue vous frapper dans vos richesses anéanties, dans vos affections détruites, comment l'habitant des zones si tranquilles, si monotones, ne vous refuserait-il pas la croyance que vous lui demandez ? Un bruit sourd et ténébreux se fait d'abord entendre, et pourtant on n'aperçoit nul mouvement encore dans tout l'espace. La mer est tranquille et le ciel azuré. Bientôt les eaux deviennent clapoteuses, comme si un feu sous-marin les mettait en ébullition, et puis, sans que la moindre vapeur s'empare de l'air, le soleil se montre blafard, vaste, incertain. Le haut feuillage des arbres frémit et siffle, les ruisseaux pétillent, les animaux piétinent dans leur demeure ou s'arrêtent sur les routes. Une odeur fétide de soufre vous oppresse, il ne fait pas chaud et une sueur brûlante vous inonde. C'est une gêne inexprimable, c'est un malaise dont une douloureuse expérience vous dit la cause. On ne voit plus personne dans les rues silencieuses, sinon quelques mères effrayées qui les traversent pour chercher son enfant au moment où elle vient de le quitter. On ne s'est rien dit dans les maisons attristées et tout se clôt, se barricade. On amoncelle les meubles, proposer une barrière à ce vent impétueux et qui ne connaît pas de barrière, qui enlève, brise, mutile, fait tournoyer les arbres, les maisons, les navires et l'océan qu'il pousse et repousse, qu'il chasse et ramène à son gré. Les mornes se voilent de ténèbres épaisses s'élevant du sol ou descendant du ciel. Ces ténèbres sont sillonnées dans tous les sens par des éclairs rouges, colorant toute la nature d'une teinte cuivrée. Un silence de mort plane sur l'île terrifiée. Les familles en pleurs se groupent autour de leurs abris les moins menacés. Pareil à 1000 coups de tonnerre. Le tonnerre éclate alors comme pour annoncer la guerre des éléments. À ce signal, les torrents sortent de leurs lits et bondissent dans la plaine. Les arbres plus vigoureux se heurtent dans les airs avec les mains enlevées, avec les maisons saccagées. L'atmosphère est en feu, la terre tremble, se soulève et retombe. Les navires du port sont jetés sur les rochers de la côte. Le vent fait en un clin d'œil le tour de la boussole. La rafale est maintenant du nord, elle souffle du sud une minute après, et le tourbillon qui court de l'est à l'ouest change tout à coup de route et achève le ravage que la rafale opposée a commencé. Et que peuvent les descriptions toujours pâles et imparfaites ? Les faits ont toute une autre éloquence. À Minissy, campagne de Madame Monron, le toit de la demeure occupée par 2 jeunes demoiselles fut enlevé par un tourbillon et jeta à leurs pieds au moment où elles se réfugiaient dans le château. La précipitation d'une négresse leur sauva la vie. Dans le quartier Mocha, la famille de M. Suffield, directeur de la poste, sortait de sa maison. Au même instant, celle-ci est renversée et les débris écrasent un enfant aux yeux de son père et de sa mère blessée. Aux trois îlots, il semble à M. Launay que son logis est enlevé par la rafale. Il s'empresse d'en sortir avec sa femme et ses enfants. Au même instant, la maison est enlevée en effet. Son fils aîné et le noir qui le porte sont écrasés et ses deux autres enfants blessés grièvement. La bâtisse tombe à 100 pieds de son soubassement. Le vent dispersa les débris. Les meubles, les effets, tout disparut. Le linge, les vêtements, les matelas furent retrouvés à plus de 600 toises de distance. Un habitant qui voulut se hasarder à sortir au milieu de la tempête se vit saisi par le tourbillon dans le grand bazar de la ville, lancé de pilier en pilier et broyé dans ses 1000 cascades. Dans une cour du camp Malabar, le vent pénétra avec impétuosité, s'empara une à une d'un tas de planches énormes, les enleva comme un jeu de cartes et les dispersa au loin dans les bois et sur les montagnes. La salle de spectacle, vaste édifice en forme de croix, chassa à 4 pieds de son soubassement et resta pourtant debout après la tempête, comme pour en attester la violence et le caprice. Dois-je ajouter, au risque de trouver bien des incrédules, que dans plusieurs habitations, quelques barreaux des grilles de fer servant de clôture ont été ployés et tordus en spirale. Oh, cela est phénoménal sans doute. Cela semble au-dessus de toute croyance. Mais le malheur a de la mémoire. Et la pointe à Pitre et le Cap Français vous diront, comme le pays dont je vous parle, s'ils n'ont pas été témoins de catastrophes plus effrayantes, de faits plus inexprimables encore. Il n'est permis de révoquer en doute la vérité d'un récit qu'alors seulement qu'il rapporte gloire au profit du narrateur. Le mercure du baromètre descendit à 8 lignes au-dessous de 27 pouces. Jamais à l'Île-de-France on ne l'avait vu si bas. Mais c'est lorsque le souffle a passé, lorsque la tempête a cessé ses ravages, qu'il faut jeter un coup d'œil sur la campagne dévastée. Chacun sort alors de sa retraite, on se serre la main, on se cherche, on se quitte pour de nouvelles affections. Et il est rare que le deuil ne se glisse pas dans le sein d'un grand nombre de familles. De ces belles plantations, rien. De ces immenses et gigantesques allées de palmistes, rien. De ces cannes à sucre si riantes, si fortes, si vivaces, rien. Le vent dans son passage a tout vaincu, tout nivelé. 3 fois, malheur au pays sur lequel l'ouragan promène sa puissance.